right now? Or was this make me wanna run on anyhow? Whatever it is, yeah, yeah. Boy, I cannot hold back my heat. People say I'm acting kind of strange. Oh, what is this? Every day I love calling your name. Whatever it is, yeah, yeah. Oh, I cannot hold back my peace. Strange. Oh, what is this?
What is this?
Every day I love calling your name. Whatever it is. Yeah, yeah. Oh, I cannot hold. Oh, my peace, no.
I just can't hold my peace.
Said I can't hold it no. I can't hold it no more. I say I can't hold it, no, no.
I just can't hold my peace.
Oh, when you look around at the world today, it brings tears to my eyes.
I just can't hold my peace.
But I'm not worried about it, cause I know God said there's gonna be a better time.
I just can't hold.
Just hold on a little while longer.
My peace.
Keep on praising God today, y'all.
I just can't hold.
Bien bonjour. Bien bonjour, monsieur, bonjour.
Bien bonjour.
Bien bonjour, madame, bonjour.
Bien bonjour.
Chauveli, bangali, monte.
Bien bonjour.
Adi, mouna, gonye, les mains.
Bien bonjour.
Adi, mouna, wapé, les mains.
Bien bonjour.
Adi, mouna, gonye, les mains.
Bien bonjour.
Adi, mouna, gonye, les mains.
Bien bonjour.
Si ça fait la mi d'aulé.
Bien bonjour.
Si ça compte la mi d'aulé.
Bien bonjour.
Si les gonsa m'en brisent,
bien bonjour.
En arrive à côté d'aulé. Chauveli, bangali, monte. Mata la bodeli walte Dambouye konye kala Dambouye konye kala Chabeli bagali molonte Mata la bodeli walte Bili jini majoli kala plan Doki la dandali yo. Majani Galablan, Billy Gini Majani Walke, Siza Valami Tiren, Siza Madame Tiren, Siza Vacobello, Siza Valami Plafia, Siza Vontelami Renoir, Siza Valami Bertrand, Siza Vontelami Achille, Diligo Saman Brise.
Un rendez-vous intime où je reçois une invitée pour un face-à-face autour de son histoire, de son courage et de sa force. Des portraits de femmes, des parcours de vie inspirants pour se comprendre et avancer ensemble. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Entre-Femmes. Aujourd'hui je reçois Elena, bonjour Elena.
Bonjour.
Elena est doula, sexologue, spécialiste du sommeil de l'enfant, mais réduire son métier à quelques étiquettes serait déjà passer à côté de l'essentiel. Elle accompagne les familles dans les moments les plus fondateurs de la vie, la naissance, le postpartum, l'intimité, le sommeil, mais aussi parfois la fin de vie et le deuil. Elle travaille au plus près du corps, des émotions, du lien, là où tout est fragile et profondément humain. Elena est aussi maman, engagée dans une association, et porte aujourd'hui un projet fort, celui de créer une école maternelle inclusive, ancrée dans la nature et le respect du rythme de l'enfant. Aujourd'hui, elle va nous raconter son métier, ses engagements, ses doutes aussi, et ce que ça change quand on accompagne la vie au quotidien. Quand on dit doula, de quoi parle-t-on exactement? Quelle est la définition réelle de ton métier?
Dans l'interview que nous avait donnée Inès pour Otium, Clémence, ma consoeur, avait déjà défini doula d'une belle manière, donc j'invite les auditeurs, auditrices à aller l'écouter. À titre personnel, moi je tiens à rappeler que chaque doula, elle est différente. Donc la majorité des doulas, elles travaillent comme accompagnante parentale, périnatale, prénatale, des différents passages que les familles peuvent vivre, notamment la grossesse et la naissance. Donc ça, c'est souvent une base des doulas. Après, chaque doula a ses spécialités. Par exemple, on a des collègues qui sont fertility doula, tu vois, qui s'occupent de la fertilité, d'autres qui sont spécialisés dans le transgénérationnel, dans la gémilité, dans les soins ayurvédiques, dans la mort. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chacune, des formations surtout de chacune qui sont à vérifier avant de prendre contact avec des professionnels comme toujours. Moi, à titre personnel, je suis une doula large spectre, donc j'accompagne vraiment de l'arrivée des règles à la ménopause, passant du coup parfois par la préconception, la grossesse, l'accouchement, le deuil, le postnatal, l'allaitement. Donc je possède des diplômes complémentaires, notamment en psychologie. Moi je me définis comme une psychodoula large spectre parce que j'ai une approche très informationnelle qui se base quand même sur des éléments d'entretien clinique que j'ai pu apprendre pendant mes études. Mais je ne suis pas psychologue, donc je le précise également. Et ensuite je me suis spécialisée donc dans le sommeil des 0-6 ans, comme tu l'as dit. Et j'exerce également une activité de sexothérapeute en ayant été formée, bien sûr, en parallèle.
Tu nous as expliqué un peu ce que tu fais, mais peux-tu nous dire ce que tu ne fais pas?
Les doulas n'ont pas le droit de faire des actes médicaux. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas psychiatre. Je suis très informée et formée, mais je ne transmets mes connaissances qu'à des fins d'information libre et éclairée. C'est-à-dire que je ne conseille jamais les personnes que j'accompagne sur des décisions médicales les concernant. Déjà parce que je ne connais pas l'anamnèse médicale et que je n'ai pas les compétences pour ça. Je rappelle d'ailleurs toujours ces points à mes accompagnés, donc que ce soit au rendez-vous gratuit, sur mon site, dans la charte, le contrat, parce que pour commencer un accompagnement avec moi, j'ai quand même des choses nécessaires d'un point de vue administratif et dedans, il y a des rappels de ce point-là. Également, je redirige très régulièrement les personnes vers des professionnels adaptés et je me mets également moi-même en contact avec les professionnels qui gravitent autour de la famille que j'accompagne, si elles le souhaitent, pour qu'on puisse avoir un accompagnement le plus juste et adapté possible.
Cet aspect médical, justement, c'est ça les différences fondamentales avec la sage-femme? Parce que beaucoup de personnes confondent une doula et une sage-femme.
Ah oui, effectivement, nous, on n'est pas sage-femme du tout. Après, on peut être les deux. Il y a des sages-femmes qui peuvent également être doula. Mais sinon, une doula qui n'a pas un bagage de formation de sage-femme n'est pas sage-femme, parce que, comme tu le dis, elle pratique pas d'actes médicaux, mais pour plein d'autres raisons. Mais c'est vraiment la différence notable, très importante. On ne remplace pas une sage-femme du tout. On est plutôt en collaboration avec elle.
Une sage-femme qui peut être aussi doula, qu'est-ce que ça va lui apporter? C'est quoi vraiment les différences fondamentales entre les deux?
En fait, ça va vraiment dépendre des formations de doula, parce que, comme tu le sais, c'est un métier qui est non réglementé en France, en tout cas pour le moment. Je dirais qu'une sage-femme, peut-être que si elle a une formation comme la mienne, du coup, de doula large spectre, elle aura quand même plus d'informations sur certains sujets, tu vois, notamment sur le deuil, sur des choses qui sont un petit peu moins abordées dans les cours de sage-femme. Parce que les cours de sage-femme, du coup, en France surtout, sont très professionnalisants. C'est très dur d'être sage-femme en France. On a des études très, très poussées en sage-femme, notamment dans le médical. C'est vraiment des spécialistes, normalement, de la physiologie, un peu moins, malheureusement, parce que elles n'ont pas le temps, elles ne peuvent pas être partout. Mais c'est surtout des spécialistes des pathologies. Elles ont vraiment des compétences très élevées.
Est-ce qu'on peut parler alors de médecine parallèle ou alternative, ou c'est pas du tout le bon terme?
Ce que je dis, ça n'engage que moi et ça reflète pas la vie des autres doulas. Mais moi, je me considère pas du tout comme une médecine alternative, parce que j'ai ce côté psychodoula. Il y a quelque chose de très scientifique, tu vois, dedans. Je me considère vraiment au service d'eux. Et ensuite, selon le besoin, je m'adapte selon bagage de formation, mais pas comme médecine parallèle.
Quels sont alors les diplômes, les formations, les parcours nécessaires pour devenir doula aujourd'hui?
Ça dépend des pays, mais en France, comme c'est pas réglementé, il n'y a rien de nécessaire, comme d'ailleurs le métier de sexothérapeute. Cependant, c'est une vocation qui, selon moi, nécessite des compétences très particulières, et notre sens moral et notre rigueur nous obligent à être sérieusement formés. Il existe des formations de 2 ans, comme la mienne par exemple, pour être doula, ou de 3 jours. Ça me semble pas juste pour les familles de pas être formées et informées. On accompagne parfois des situations vraiment spécifiques, d'ailleurs parfois des deuils imprévus, parce qu'en fait, quand il y a la vie, il y a forcément la mort avec. Si on n'est pas bien formé, si on n'est pas à jour sur les dernières informations, sur les tenants et aboutissants des thèmes qu'on se permet d'accompagner, et si on peut pas se remettre en question dans sa pratique, enfin c'est pas possible. Pour moi, il faut vraiment être formé en continu et au préalable.
Mais c'est quand même un métier qui est encadré en France.
Il a des encadrements dans le sens où on peut pas, par exemple, proposer quoi que ce soit de médical. Sinon, évidemment, le conseil de l'ordre des sages-femmes ou autre chose peut venir vérifier qu'on fait les choses de manière sécuritaire. Mais il n'y a pas de réglementation sur ce qu'on doit avoir comme bagage de formation.
Et alors, pourquoi toi, tu as choisi cette voie-là?
Du coup, là, je vais te faire un petit monologue pour te partager un peu mon parcours. Je voulais travailler pour œuvrer pour les enfants. Ça, je le savais, mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait quand j'étais jeune. Comme beaucoup de personnes, j'ai passé le BAFA. Je me suis spécialisée dans la petite enfance. Je travaillais en même temps, déjà, donc très très jeune, vers mes 16 ans. J'ai commencé à travailler en parallèle de mon bac. Pendant mon année de terminale, j'ai fait une prépa d'éducatrice spécialisée en même temps. Et j'ai fait, par exemple, des stages au sein des foyers d'Auteuil. À ce moment-là, je me suis également investie dans une association porteuse d'un projet de création de maison de naissance en Normandie, donc le Cocon Normand. D'abord comme membre actif à ce moment-là. Après le lycée, j'avais le choix entre des études de sage-femme, de sciences de l'éduc et de psycho. J'ai choisi sciences de l'éduc parce que je pensais que je voulais être au contact direct des enfants et parce que ça me permettait de travailler en même temps pour payer ce que j'avais à payer autour de moi. J'avais 3 emplois différents en même temps de mes études qui étaient tous auprès des enfants. Et au final, je suis partie vers la licence de psycho dès la L1 de sciences de l'éduc parce que c'était pas très stimulant intellectuellement, j'apprenais pas grand chose en fait. J'avais besoin de pousser beaucoup plus mes connaissances et la psychologie était beaucoup plus dure et m'intéressait vraiment beaucoup plus. Au cours de ces années-là, du coup, j'étais toujours bénévole au Cocon Normand et je suis passée vice-présidente de l'association. Et donc j'animais des événements, je portais des stands, je gérais l'administratif, les rendez-vous avec les différents maires, les investisseurs, les organisations comme l'ARS, et j'étais relativement jeune parce que j'avais genre 19 ans, même pas. Et ma passion pour les naissances, elle a pu s'exprimer au sein de cette association-là, lorsque je partageais la présidence, donc avec une sage-femme que je tiens très très haut dans mon cœur. Puis j'ai rencontré vraiment plein de sages-femmes incroyables. Enfin vraiment, c'est pour ça que moi, les sages-femmes, je les aime. Je suis également devenue maman pendant mes dernières années d'études de psycho, suite à un début de parcours de PMA, quand même, avec des annonces de santé inquiétantes, donc on fait que je me suis lancée là-dedans. À ce moment, je me suis un peu retirée du cocon pour pouvoir prendre du temps pour ma famille. J'ai utilisé mes études de psychologie comme levier pour faire beaucoup de stages, notamment auprès de sages-femmes en libéral, auprès de maternité, de pédiatres, de psychologues, comme dans des CMP par exemple aussi, pour un petit peu regarder les institutions. Et en parallèle de tout ça, je me suis imposé un double, voire par moment un triple cursus, avec des formations de doula, comme tu le sais, et de sexothérapeute. Et j'ai, pendant mes études de psycho, proposé un TER sur le chemsex, donc dans le cadre de mes études de sexo en même temps. La dernière année de mes études universitaires, j'ai créé une association qui a des projets qui sont en faveur de la transmission du savoir, donc l'association Autium. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme de psychologie, là je me suis spécialisée dans le sommeil dès 0-6 ans avec Alexia Iglose, elle s'appelle Petite Framboise Périnatalité sur Instagram, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui doivent la connaître. C'est une formation qui est très soucieuse des connaissances actuelles dans les neurosciences affectives, donc ça fait plaisir. Enfin, au quotidien, je me forme avec des petites formations continues pour perfectionner ma pratique et puis rester à jour. Donc des webinaires, des colloques, des supervisions, des mini-formations DME, LSF, sur les rituels, les routines des enfants.
C'est le contact à l'enfant qui t'a dirigé un peu. Et pourtant, dans ta profession, tu es aussi très en lien avec les parents en général et en contact aussi avec la mort, pas nécessairement des enfants, j'espère.
Malheureusement, la mort touche les enfants aussi parce que la mort touche tout le monde, pour répondre d'ailleurs à ce premier point. Et ensuite, mon schéma de pensée, c'est qu'en accompagnant les parents en amont, je vais les aider, en tout cas les guider du mieux que je peux et leur apporter toutes les ressources nécessaires pour être des parents sécuritaires pour les enfants. Quand je travaille avec les parents, même s'ils sont même pas encore en grossesse, s'ils viennent me voir en préconception, moi je suis trop contente. C'est le moment que je préfère accompagner parce que je peux tout travailler avec eux avant que la grossesse et tu vois la réalité des choses soit trop prenante, que la disponibilité émotionnelle s'effrite. Donc en amont, tu peux vraiment apporter toutes les infos possibles et je suis sûre que ça sert les enfants et ça c'est ce qui m'anime vraiment.
On va rentrer dans le cœur de ton accompagnement et parler d'un moment clé, donc la naissance. Comment se passe un accompagnement avant la naissance ?
Comme d'habitude, je pense que tu l'auras un peu compris, mais c'est super personnalisé, donc ça dépend vraiment des familles, des besoins, des contextes, du moment où ils viennent me voir aussi. Parce que là, par exemple, récemment, j'ai accompagné une famille qui est venue me voir fin décembre pour une grossesse qui devait se terminer début mars, tu vois. J'avais plein de choses que je voulais leur transmettre, mais j'ai essayé de canaliser toute cette énergie parce que je voulais pas ni les stresser, ni les bombarder d'infos. Tu sais, dans ces cas-là, on cible beaucoup. Et là, en l'occurrence, pour cette famille-là, c'était des besoins de préparation de la famille à la naissance. Mais là, c'était plutôt apprendre aux enfants quelle posture peut aider la maman, ce genre de choses. C'était inclure tout le monde dans la famille, dans leur place au moment de l'accouchement, etc. Donc, c'était très plaisant. Et je me suis mise d'ailleurs en lien avec leur sage-femme, du coup, pour leur plateau technique, tout ça. Donc, c'était chouette, quoi.
Le jour de l'accouchement, quel est ton rôle concrètement ?
Dans ma manière de travailler, la majorité du temps, j'essaye vraiment de préparer les familles en amont de manière à ce qu'ils aient pas besoin de moi. Ce que j'ai envie, c'est pas d'être indispensable aux familles. Ce que j'ai envie, c'est que les familles aient l'autonomie de pouvoir se gérer elles-mêmes et de se sentir puissant et de se sentir actif. Et ça, ça compte beaucoup. Donc, j'accompagne pas beaucoup d'astreintes en l'occurrence. D'ailleurs, pour cette dernière astreinte, je ne me suis pas présentée à l'accouchement, pas parce que j'ai pas pu y aller, parce que la famille m'a pas appelée, m'a dit après, bah écoute, photo de bébé. Et puis, tu sais, on s'est senti tellement puissant qu'on s'est pas senti obligé de t'avoir. Merci. C'est beau. Donc ça, je pense que ça, c'est mon rôle précisément. Mais sinon, dans les cas où je peux être à une naissance où j'ai la chance, parce que c'est vraiment un honneur, je m'adapte. Mais tu sais, je m'adapte à un point où si, par exemple, il y a déjà une sage-femme, plateau technique, AAD, quel que ce soit, je peux être la doula de la sage-femme. Je vais vraiment être là où on a besoin de moi. Je veux juste être au service, servir l'espace de naissance et j'ai vraiment beaucoup de respect pour là où je mets les pieds, pour la famille, pour les professionnels qui gravitent autour.
Mais tu peux intervenir à la demande dans les hôpitaux, les cliniques ou seulement à domicile ?
Non, si la famille le souhaite et que l'équipe médicale des maternités, par exemple, le souhaite également, sont d'accord. Moi, je peux intervenir là pour l'astreinte. Il y avait plusieurs plans, par exemple, un plateau technique, mais également, du coup, une possibilité d'accouchement en maternité. Il vaut mieux prévoir tout. Et j'ai rencontré la cadre des sages-femmes de la maternité en question, qui m'a un peu interrogée, qui a vérifié que ma posture était adaptée et qui a ensuite accordé ma présence dans ce cadre-là. Donc là, j'ai pas eu besoin, mais c'est possible. D'ailleurs, moi, ma propre doula à mon accouchement était présente à la maternité et je connais des doulas qui font régulièrement, même Clémence par exemple, ma collègue, elle a déjà accompagné en césarienne. On n'accompagne pas que en AAD.
Peux-tu donner un exemple, sans parler d'intimité, d'une expérience qui t'a profondément marquée dans la naissance ?
J'ai pas forcément une situation précise, mais plutôt des regards, en fait, tu vois. Ça me marque beaucoup, notamment les étoiles dans les yeux d'une petite fille que j'accompagnais quand elle comprenait le fonctionnement de son corps. Donc quand je dis petite fille, elle était quand même assez grande, hein. C'était plutôt une adolescente. La détermination et la confiance dans le regard d'une maman qui appréhendait beaucoup l'accouchement, etc. Et tu sais, vraiment, à la fin de la séance, elle m'a regardée, elle m'a dit « je suis prête », c'était vraiment beau. Et puis là, récemment, du coup, l'amour dans les yeux d'une enfant, il y avait sa maman qui s'appuyait sur son ballon pour commencer à se préparer, et sa petite qui était en tailleur devant elle, puis qui la regardait, tout l'amour du monde dans ses yeux. Ça, c'est vraiment des moments qui me marquent parce que c'est pour ça que je fais ce travail aussi.
Qu'est-ce que les parents te disent le plus souvent après coup ?
Souvent, l'accompagnement s'arrête une fois que les familles elles ont obtenu ce qu'elles étaient venues chercher. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de contacts, c'est des nouvelles de temps en temps, tout ça. Mais je sens bien qu'elles gagnent en puissance, en autonomie surtout. Et c'est vraiment, ça compte beaucoup pour moi, ça. Et du coup, souvent, j'ai plutôt des remerciements, parfois des faire-part, des avis sur mes sites, sur Google, des trucs comme ça.
On vient de parler de la naissance, mais il y a un après dont on parle encore trop peu. On dit souvent que le postpartum est un grand oublié, tu confirmes ?
Oui, oui, effectivement, ça tend quand même à s'améliorer, heureusement. Mais je pense même plus largement que le bien-être des parents et des enfants, de manière générale, en fait, n'est pas la priorité de grand monde, malheureusement. Et du coup, bah, le postpartum en fait partie. On suit avec beaucoup de soin la grossesse, puis on lâche pas mal les parents, en fait, une fois que bébé est arrivé. Parfois, on les culpabilise même, on les bombarde d'infos sur le net, on les conseille mal, tata Monique qui vient te dire qu'il faut faire ci. Bon, on les oblige économiquement à retourner au boulot aussi, excessivement tôt. Parce que parfois c'est pas un choix. Et on a les mêmes attentes irréalistes, tu sais, de weird population envers les enfants. Par exemple, on en avait parlé, mais qui se régulent eux-mêmes, ce qui est physiquement impossible, vraiment biologiquement dans le cerveau, hein. Qu'ils dorment seuls tout de suite, alors qu'en vrai, même les adultes, on dort rarement seuls. On est souvent plus confort quand il y a notre partenaire avec nous, parfois notre chat. Les attentes sociétales actuelles, c'est vraiment que la maman soit OP direct en postpartum, ce qui est pas atteignable pour elle non plus. Qu'elle ait immédiatement des rapports sexuels aussi. Les maris, quand ce sont des maris, ont du mal à comprendre ça. Et c'est pas normal, parce que forcer une femme à avoir des rapports sexuels, c'est du viol. Quand il n'y a pas consentement, il y a viol. C'est important de le rappeler. Souvent, on demande aux mamans qu'elles reprennent ses activités rapidement. Si elle n'a pas perdu son ventre trop vite, on la culpabilise. Si au contraire, elle sort trop vite, on la culpabilise. On attend que le bébé, donc, comme je te disais, soit mature neurologiquement, que le coparent reprenne tôt le travail. Toutes ces choses-là, ça ne permet pas de favoriser un faire famille correct. Et ça favorise, selon moi, les dépressions postpartum, les baby clash entre les parents et les difficultés d'attachement et de lien sécure dans les familles.
Qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les jeunes parents après la naissance ?
Alors, ça dépend vraiment des familles que j'accompagne. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir un public particulièrement à l'écoute des besoins et des limites de chacun, notamment de celles de leurs enfants. Par exemple, pour un postpartum que j'accompagnais récemment, c'était une bulle d'ocytocine, d'amour, tout se passe bien. Je sais que c'est pas la norme, mais c'est moi, c'est ce que j'observe dans les parents que j'accompagne. Déjà parce que c'est des gens qui sont connectés, conscients, mais surtout très prêts, informés et soutenus. Et être soutenu, c'est ça qui compte, je pense, et qui change la donne. Et d'autres familles, du coup, pour diverses raisons, à cause de l'isolement hein, notamment, et du manque d'informations safe, elles vivent beaucoup de doutes, de culpabilité, d'inquiétude, et ça, c'est moins chouette quand même.
Fatigue, isolement, charge mentale, comment tu accompagnes tout ça ?
Dans mon ressenti, avec beaucoup d'humilité, parce que déjà, quand une famille choisit que je les accompagne, ça me touche toujours. Voilà, je comprends que je suis invitée dans leur vie à un moment très charnière, donc souvent, vraiment, je ne juge jamais, évidemment. Mais au-delà même de ne pas juger, je suis vraiment honorée qu'ils aient assez confiance pour m'avoir dans leur vie dans ce moment-là. Et ensuite, concrètement, souvent, je remets un peu en branle les informations, si elles sont fiables ou non, les ressources de lieux, tu sais, par exemple, même des LAEP, tout ça, de contacts, de professionnels, pour leur permettre d'adoucir un peu le tout comme je peux, en fait, à ma hauteur.
Quelle est la place que tu accordes au corps de la mère, mais aussi à celui de l'autre parent ?
Autant de place qu'à leur cœur et leur cerveau. C'est vrai qu'à titre personnel, moi, je pratique pas de soins. Je pense que j'en ai un petit peu parlé déjà aussi, donc je redirige vers des personnes qui en sont spécialistes, ne serait-ce que pour les ribosos, donc envers d'autres doulas qui sont bien formées là-dedans, parce que c'est pas mon cas, je sais faire les bases, mais j'aimerais savoir faire plus, c'est prévu. Mais pour le moment, je redirige pour que mes accompagnés soient le mieux possible. J'accorde, comme je pense beaucoup de professionnels, une grande place à la récupération du corps, mais ça va avec la récupération du mental, enfin tu sais, tout est vraiment imbriqué dans l'accompagnement en fait.
Et donc tu t'occupes aussi du coparent ?
Oui, bien sûr, du coparent, surtout même des coparents en fait. Moi j'adore travailler avec les coparents, c'est ce que je préfère parce que ça retire la charge à la personne qui enfance en général. Surtout que bah, je pense que j'ai des valeurs assez féministes aussi, donc pouvoir déléguer un peu la maman, plutôt la décharger et déléguer justement aux coparents, quels qu'ils soient, bah, c'est chouette parce qu'elle porte déjà assez. Même les grands-parents, les enfants, toute la famille qui veut, moi je suis là.
Quand on est aussi bien accompagné en fait, ça change quoi ?
Pour moi, ça change tout. Alors, je sais que c'est très global comme réponse, mais ça change vraiment le vécu de la personne, que ce soit en tant que nouveau parent, mais en tant que nouveau couple, d'une certaine manière, en tant que famille, de manière générale, ça change vraiment le vécu. Et je pense sur du long terme, surtout. Ça, c'est encore mieux, quoi.
Et parmi les défis qui arrivent très vite, après, il y en a un qui concerne toute la famille, le sommeil. Donc, tu es spécialiste du sommeil, de l'enfant. Pourquoi c'est un sujet si sensible ?
Parce que tout le monde se croit spécialiste, mais ne l'est pas nécessairement. Il y a beaucoup d'avis ou de conseils, d'ailleurs parfois non sollicités, qui sont véhiculés, pour autant pas forcément fiables. Des conseils qui sont même parfois donnés par des professionnels qui disent un peu n'importe quoi, en fait, on va pas se mentir. Même des professionnels du sommeil. Donc j'invite vraiment les familles à être très vigilantes sur ce que proposent des conseillères en sommeil qui vous offrent dès vos enfants vont dormir dans une semaine, méfiance. Parce que ce sera rarement d'une manière qui est sécuritaire pour vous et pour votre enfant, même si c'est ce qu'ils essaient de vous faire croire. Donc surveillez les formations, vérifiez que c'est en adéquation avec vos valeurs. Carrément aller chercher les études qui prouvent ce que les personnes disent, vraiment creuser, soyez informés. Les professionnels de santé, ils ont une expertise qui est précieuse, mais comme dans tous les domaines, les connaissances elles évoluent et parfois les professionnels de santé, comme malheureusement certains pédiatres, ne sont pas à jour. Et du coup, même des conseils qu'on pourrait se dire, oh, c'est le pédiatre qui l'a dit quand même, tu sais, on a quand même une grande confiance en nos médecins, et tant mieux d'ailleurs, mais là, il faut savoir toujours, comme partout, même auprès du médecin, parfois remettre en question les choses, pas forcément systématiquement, mais bien se questionner. Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que je peux aller voir un second avis? Quand je me renseigne dans les études officielles, qu'est-ce que je constate? Toutes les formations, elles ne sont pas actualisées au même rythme, notamment en ce qui concerne les neurosciences affectives et les recherches récentes sur l'attachement et la régulation émotionnelle. Donc c'est important de l'avoir en tête quand un professionnel de santé ou qui que ce soit, en fait, nous affirme qu'il faut laisser pleurer un bébé pour qu'il s'endorme, par exemple.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, d'ailleurs, autour du sommeil?
Énormément. C'est une catastrophe, je trouve. Et même, malheureusement, comme je te dis, chez les professionnels, tu sais, qui disent que c'est plus doux de laisser pleurer bébé d'abord 5 minutes, puis 10, puis 15. Non, ça, c'est aussi de l'extinction de comportement. Et en fait, le bébé, il apprend pas à se réguler à cet âge-là. Il apprend à arrêter de t'appeler. Les parents qui font ça, c'est pas qu'ils aiment pas leurs enfants. Ils font de leur mieux avec les infos qu'on leur vend. Sauf que, justement, du coup, je fais un appel aux parents. Écoutez plutôt vos tripes. Plus que ça, vous sentez bien que ça vous fait mal au ventre quand bébé pleure. Vous le sentez, allez-y, parce qu'un bébé qui pleure, ce sera jamais de la manipulation. C'est un bébé qui a un besoin. Par rapport aux fausses croyances, pour revenir autour de ça, il y en a surtout l'enfantement, l'allaitement, le sommeil, mais le sommeil, vraiment, c'est vraiment balèze. Notamment celle que j'ai citée là à l'instant. Mais c'est un problème qui est un peu plus vaste, tu vois, lié directement à la manière dont sont perçus les enfants. Là, par exemple, tout à l'heure, on va percevoir des pleurs comme parfois de la manipulation. Et là, c'est pas un avis que je donne, c'est vraiment une donnée scientifique. Le cerveau, la manière dont il est développé à cet âge-là, ne permet pas la manipulation. Ce serait pas avant 6-7 ans, et même encore au-delà, selon moi, par exemple, le caprice, c'est une notion culturelle. C'est un concept social, en fait. Le caprice, ce n'est pas une donnée scientifique. Ça n'a aucune valeur scientifiquement de parler de caprice ou de parler d'enfant roi, de manipulation, de « Ah, si tu le prends dans tes bras, il va s'habituer. » Et il va s'habituer à quoi? À se sentir en sécurité? On nous apprend à ne pas répondre aux besoins de nos enfants. On ne sait pas trop réguler nos propres émotions parce qu'on n'a pas appris, tout simplement. Ce qui fait que là, la génération actuelle, elle en chie un peu parce que elle aussi, entre gérer ses propres émotions qu'elle n'a pas appris et gérer celles de ses loulous, et parfois il y en a quatre, et « Ah !» Ça fait vraiment trop. On attend d'eux énormément. On attend d'eux qu'ils nous demandent de ne pas être leurs parents, en fait, qu'ils se s'autogèrent, etc., qu'ils gèrent leurs émotions seuls dans leur coin, dans leur chambre, qu'ils se taisent quand il faut. Ils peuvent pas faire ça. Parce que l'inhibition, elle est difficile, en fait. Elle est même impossible la majorité du temps. Pour couper court à toutes les phrases typiques qu'on entend H24, les études sur les pleurs et la sensibilité parentale, elles montrent, et vous pouvez le vérifier, que répondre de façon cohérente et relativement rapide aux signaux du bébé, c'est associé avec le temps à des pleurs moins longs et une meilleure régulation, ce qui, au passage, les parents, est bénéf pour vous. Ça veut dire qu'un bébé pleure la nuit, plus vous répondez rapidement, plus il se rendort vite, et plus il dort longtemps, moins il y a de réveil, donc vous dormez mieux. Donc vraiment, quand on parle de laisser pleurer bébé, l'enjeu, il n'est pas seulement moral, il est développemental. Un bébé, il ne se régule pas seul, il se régule en ce qu'on appelle la co-régulation, du coup, donc souvent avec un adulte. Un stress trop intense ou trop prolongé, sans soutien, ça peut perturber la construction des systèmes de réponse au stress. C'est ce que la littérature, elle appelle le stress toxique. Et la présence d'un adulte sensible, c'est un facteur de protection majeur. Donc oui, les besoins fondamentaux des tout-petits, ça inclut l'affectif. Proximité, sécurité émotionnelle, co-régulation. Et je rajouterais même pour finir que les attentes qu'on a, qu'elles soient en termes de sommeil ou de comportement pour les enfants, elles sont parfois même pas réalisables par des adultes de plus de 25 ans, parce que tu sais, après 25 ans, en théorie, c'est à peu près quand le cerveau il a fini de se former. On attend des trucs d'enfants de 6 mois, 3, 4 ans, que nous, même après 30 ans, on sait même pas faire. Il y a des gens, ils ne s'endorment pas tant que le conjoint, à minuit, il n'a pas rejoint le lit. Donc non, il faut être réaliste.
C'est ta pratique qui est mise à jour, qui est récente. Donc en quoi ton approche est différente des méthodes très normées ou culpabilisantes?
Parce que déjà, j'ai conscience que les parents, ils font ce qu'ils peuvent. tout le temps. Moi, je donne quand même les infos. Là, par exemple, dans ce que je viens de dire juste avant, ça peut être culpabilisant pour certains parents. Et j'en ai conscience, vraiment. C'est pour ça que là, j'en parle comme ça en interview, je donne les infos. Mais quand je fais un accompagnement, je balance pas les infos comme ça. En fait, je vais vraiment m'adapter aux parents que j'ai en face de moi, aux besoins, comment bébé tolère les choses, comment les parents tolèrent les choses, le bénéfice-risque un petit peu, pour que l'équilibre de la famille soit le plus optimum. Et parfois, moi, je pense que le co-sleeping, quand il est pratiqué de manière sécuritaire, sans couverture, sans doudou, sans risque de tomber, c'est beaucoup plus correct pour répondre aux besoins de tout le monde, parce que les parents n'ont pas besoin de se lever, les enfants peuvent avoir une réponse rapide. Pour autant, j'accompagne souvent des familles avec des bébés de 1 mois qui dorment dans leur chambre. Et je ne fais pas forcément changer ça. Si le bébé dort et par exemple que les parents viennent me voir pour autre chose, pour un besoin par exemple de réajustement de sieste, de rythme ou quoi, bon, à 1 mois ce ne sera pas le cas, on est plutôt sur de la régulation.